Bonjour à tous. C'était en décembre dernier. Facebook annonce avoir supprimé près de 150 faux comptes liés à l'armée française et à des intérêts russes au Sahel et en Centrafrique. Mais qui se cache derrière ces comptes et de quoi sont-ils révélateurs? Bonjour Philippe Reltien.
Bonjour.
On va essayer de répondre avec vous à cette question et puis nous recevrons Violette Lazare. Bonjour également.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste à l'Obs et vous nous expliquerez qu'à l'origine de l'emprisonnement de l'opposant russe Alexei Navalny, il y a une société française de produits de beauté très connue qui s'appelle Yves Rocher.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Ce n'est ni plus ni moins que de la fabrique de fake news au profit de la mission française au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire. Il y a une multitude de pays sur lesquels on a orienté la fabrique du consentement.
Voilà, ça c'était un extrait d'une vidéo postée fin décembre 2020 sur une chaîne YouTube qui est baptisée RP. C'est une chaîne fondée par un groupe d'Africains qui analyse depuis Paris l'actualité de son continent pour sa diaspora. Alors là, on y entend Elie Djadebla qui commente la suppression par Facebook de près de 150 faux comptes. Et ça, ça mérite quelques explications, Philippe Reltien. Quand on parle de ces faux comptes, on parle de quoi précisément?
Eh bien, il faut savoir que pendant presque 2 ans, des internautes russes et français se sont affrontés en ligne, chacun cherchant à salir la réputation de l'autre au Sahel à travers des messages postés sur Facebook et chacun restant caché derrière de fausses identités locales.
Ouais, donc a priori, on a deux protagonistes. On a des pro-russes d'un côté et des pro-français de l'autre.
C'est ça. Et ça a été documenté par un cabinet américain qui s'appelle Graphica. Il a analysé pour Facebook les publications de chacun de ses protagonistes et il a pu établir qu'il se livrait une véritable guerre numérique.
Et quelle forme elle prend concrètement, cette guerre numérique?
Eh bien, par exemple, les comptes russes dénoncent le comportement néocolonial des Français qu'ils comparent à des hyènes. Écoutez Damien Licia, le vice-président de l'Observatoire stratégique de l'information, il commente l'un des messages postés par les Russes contre les Français.
On est sur une capture Facebook qui montre la France qui se prend un coup de pied au derrière par le Mali et on a derrière, à contrario, des images qui mettent en avant, notamment si je ne me trompe pas, le ministre de la Défense russe.
Oui, monsieur Shoigu.
Qui échange des poignées de main qui ont l'air fort cordiales avec des acteurs politiques maliens, si je ne me trompe pas, par rapport à la caricature.
Oui, mais vous voyez là ce qui est écrit au-dessus des photos?
Foutez le camp. Il y a toujours cette volonté de pointer du doigt la présence française sur zone, et notamment, c'est un sujet qui revient assez souvent, de mettre en avant les supposées, je mets des guillemets, exactions que l'armée française aurait commises sur place de la part de ces acteurs russes qui cherchent bien, autant que faire se peut, à affaiblir la position française sur zone.
Et donc les Russes dénoncent via Facebook la présence des Français en Afrique, mais la France, elle répond à ces postes.
Oui, en effet, dans cette bataille numérique, elle réplique, et avec des messages de la même teneur.
On voit un ours qui vole, je crois que c'est des diamants. Donc l'ours porte une chapka, donc ce qui laisse assez peu de doutes quant à l'identité de l'ours en question, qui ne manque pas d'évoquer la période soviétique.
Donc c'est un peu guerre froide.
Les menées informationnelles qui ont lieu sur place ne manquent pas de nous rappeler certains au fait d'une période qu'on pensait plus ou moins révolue jusque-là.
Une période où l'Est et l'Ouest s'affrontaient sans se combattre ouvertement. Mais alors pourquoi ce terrain-là s'est-il déporté en Afrique francophone, Philippe? Pourquoi les Russes viennent-ils jouer dans le jardin des Français en quelque sorte?
Eh bien parce qu'ils sont dans une logique de conquête et d'influence. Et ils exercent cette influence avec les moyens qu'ils ont. Écoutez Céline Maranger, elle est chercheure au service historique de la Défense. Elle vient de publier avec Maude Kessar « Les guerres de l'information à l'ère numérique ».
La Russie, elle est dans une rivalité de puissance. Elle ne veut pas apparaître comme un acteur régional, elle veut apparaître comme un acteur mondial. C'est vrai que ces dernières années, elle s'intéresse de plus en plus à l'Afrique, mais elle n'a pas des moyens illimités, si vous voulez. Elle s'appuie principalement sur l'usage des mercenaires, et notamment des mercenaires de la société privée Wagner, qui est dirigé par Prigogine, qui est un proche de Vladimir Poutine, l'homme des basses œuvres, quelqu'un qui a fait 10 ans de prison à l'époque soviétique pour des faits de droit commun. et qui est aussi l'homme qui dirige la Fermatrol à Saint-Pétersbourg. Ces mercenaires, en fait, offrent protection aux dirigeants locaux africains et ils se présentent, finalement, ça permet à la Russie de se présenter en pourvoyeur de sécurité.
Oui, cela dit, si j'entends bien Philippe, la Russie ne fait pas qu'assurer la sécurité de quelques notables locaux.
Non, à côté de cette protection, elle emploie aussi l'arme numérique pour faire de la propagande. D'où ces posts sur Facebook destinés à saper la crédibilité des militaires français au Sahel. Et cela fait dire au général Chauvency, expert de l'influence militaire, que la France ne fait que se défendre en utilisant les mêmes armes.
C'est les Français qui ont été attaqués par les Russes, ne l'oublions pas quand même au départ. C'est une réaction française par rapport aux actions de déstabilisation des Russes. On l'a vu en Centrafrique. On le voit un petit peu au Mali, on le voit aussi dans d'autres États africains. La question est de savoir qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif. Est-ce que les fake news par les Français au Mali visent à déstabiliser les Russes ou simplement à leur répondre? Moi, j'ai eu le sentiment qu'on testait des outils pour voir ce qu'on était capable de faire et on cherchait peut-être plutôt aussi, en même temps, puisqu'on l'a vu, contrer les Russes qui se croyaient en terrain conquis. Donc d'un côté, pour moi, je dis simplement que c'est un apprentissage de l'utilisation des réseaux sociaux en opération sous une forme noire face à quelqu'un qui nous agresse.
Mais qui les a rédigés, ces messages, Philippe? Y a qui derrière ces comptes?
Officiellement, on ne sait pas, c'est secret. Facebook parle de comptes liés à l'armée française. L'armée, elle, ne confirme pas, mais ne dément pas non plus. Je précise qu'elle n'a pas donné suite à notre demande d'interview sur le sujet. Maintenant, ce que suggère Damien Licia de l'Observatoire stratégique de l'information, c'est que ces messages de propagande ont pu être sous-traités localement par l'armée française.
Et qu'est-ce qui lui permet de penser ça?
Eh bien d'abord le fait que ça s'est déjà produit ailleurs, y compris pour des opérations de grande envergure.
Si on prend le cas des élections américaines en 2020, il y a eu une ferme qui avait été mise au jour, une ferme de troll qui était au Ghana, qui avait visiblement vocation à interférer dans les élections. Et ici, on peut supposer qu'il y a des logiques de déportation des campagnes d'influence et de manipulation de l'opinion publique avec l'activation d'acteurs locaux.
Oui, ce qui accrédite cette hypothèse, Philippe, c'est que les faux comptes Facebook français, ils semblent avoir été conçus, disons, un peu à la va-vite.
C'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui saute aux yeux dans cette affaire, c'est l'amateurisme dont les Français ont fait preuve. Par exemple, pour créer une fausse page Facebook portant le nom local de Martin Cossipé, on a utilisé comme photo d'identité le visage de l'ex-champion de boxe Mohamed Ali lorsqu'il était jeune. Évidemment, la supercherie a été vite repérée et ce genre de maladresse fait bondir le général Chauvency.
Pour faire de l'influence, il faut être professionnel. Pour être professionnel, il y a les techniciens et il y a ceux qui pensent l'action par le contenu. Donc on a besoin de gens intelligents, cultivés, capable de porter ces messages avec du sens. Ce que vous me donnez comme exemple, ça m'a fait sauter au plafond. Faire des erreurs de débutants comme ça, alors qu'on sait qu'en face de nous, les gens ne sont pas plus idiots que nous, qui vont vite le découvrir, je pense que c'est une erreur tactique, sinon stratégique.
Ouais, cette erreur a donc mis la puce à l'oreille des internautes. Mais comment Facebook a finalement réussi à les démasquer, ces faux comptes?
Eh bien, c'est très simple. Écoutez ce que dit Romain Mielkarek, un chercheur qui travaille sur ces questions d'influence. Quiconque ne parvient pas à prouver son identité à Facebook est exclu du réseau social.
Pour avoir un compte sur Facebook, il faut pouvoir justifier de son identité. Si à un moment Facebook a des doutes, il vous réclame de justifier votre identité. Moi, ça m'est arrivé, par exemple. J'ai longtemps été sous pseudonyme sur Facebook, et puis à un moment donné, Facebook m'a demandé de présenter une pièce d'identité qui justifiait que le nom que j'utilisais était mon vrai nom. Il s'avère que c'était pas mon vrai nom, donc j'ai dû remettre mon vrai nom. Là, à partir du moment où ils ont des soupçons, ils ont dû demander aux propriétaires des comptes de confirmer leur identité par tout un tas de critères, pièce d'identité, numéro de téléphone, numéro d'email, etc., etc. Et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait un loup, ils se sont rendus compte qu'il y avait un lien entre une série de plusieurs dizaines de comptes où il y avait des loups, et à partir de là, ils se sont rendus compte qu'il y avait une campagne.
Et c'est comme ça donc que Facebook repère et ferme 150 comptes, dont 84 pro-français.
Oui, mais ça va plus loin que ça. Dans la foulée, YouTube ferme aussi deux chaînes, Twitter identifie une vingtaine de faux profils, et d'autres forums bidons seront également épinglés.
Et ce coup de pied dans la fourmilière semble d'ailleurs avoir poussé d'autres acteurs numériques plutôt douteux, hein, on va dire, à s'auto-dissoudre.
Oui, alors ça, c'est ce qu'a remarqué sur le terrain le correspondant du Monde à Bamako, Matteo Maillard. Il y en avait en effet d'autres, des sites plutôt favorables à l'armée française, qui parlaient aux Touaregs par exemple. Eh bien, ces comptes-là se sont éteints tout seuls, comme par enchantement, lorsque Facebook a annoncé qu'il faisait le ménage.
C'est vrai que quand Facebook et d'autres réseaux sociaux ont bloqué des comptes, certains comptes ont été effacés. Ce sont souvent des comptes d'ailleurs avec assez peu de followers, assez récents, tout à fait anonymes. Moi, je me rappelle de comptes avec l'image d'un Touareg enturbané. Et ces comptes-là ont effectivement disparu au même moment où Facebook et les autres réseaux sociaux ont décidé de fermer cette campagne d'influence.
En attendant, tout ça a fait plutôt mauvais effet, Philippe, et ça a nuit à la réputation de l'armée française au Sahel.
Oui, le fait d'avoir été mis en cause dans une affaire de propagande mal ficelée, ça fait plutôt mauvais genre. L'armée a fait profil bas, mais pour notre consoeur du monde, Nathalie Guibert, elle se serait bien passée de cette mauvaise publicité.
C'était pas bien brillant, et que ça a été exploité par tout un tas de gens, et qu'on se retrouve avec une révélation qui est très mauvaise pour la France, qui, en l'occurrence, emploie des moyens qui sont quand même beaucoup moins sophistiqués que les moyens des Russes et d'autres dans la zone. Donc ça a été très mal vécu par les autorités françaises, oui, pour ça. Parce que du coup, ça a été compris comme une opération anti-française.
Une opération anti-française, mais de la part de qui ? De Facebook ?
Oui, ils ont eu le sentiment d'être lâchés par le géant du numérique américain. Et ce sentiment d'injustice, il est d'autant plus fort que les militaires français ont l'impression d'être des enfants de cœur à côté des Russes. Plusieurs sources m'ont expliqué que nous n'achetons pas des likes au marché noir en vrac sur le Darknet. L'armée française se défend aussi d'interférer dans des élections en utilisant des moyens numériques, alors que les Russes ont été soupçonnés de l'avoir fait à plusieurs reprises ces dernières années. Écoutez à nouveau Céline Maranger. À l'entendre, l'armée russe irait en effet beaucoup plus loin que les Français dans l'utilisation de l'arme numérique.
L'armée russe aurait réussi à collecter les numéros de téléphone des soldats ukrainiens qui combattaient dans le Donbass. Et ils ont neutralisé ces téléphones. Et en même temps, ils ont envoyé aux membres de la famille de ces soldats des SMS en leur disant que leur proche était mort. Ce qui fait que les gens ont tout de suite essayé de les joindre pour savoir si c'était vrai. Et par le biais des proches, ils ont réussi à géolocaliser les soldats et donc ensuite, par la suite, éventuellement à les neutraliser.
Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors on va essayer d'aller un peu au-delà de cette guerre franco-russe par réseaux sociaux interposés dont on vient de parler, Philippe Reltien. On va prendre un peu de hauteur parce que l'influence via Internet, finalement, c'est un peu une constante désormais dans l'armée française.
Oui, c'est théorisé et assumé depuis pas mal de temps. On appelle ça la lutte informationnelle. Écoutez ce que déclarait à ce sujet le général Lecointre, le chef d'état-major des armées au quotidien Le Monde le 14 juillet dernier. Nous avons fait lire un extrait de son interview.
Nous assumons d'utiliser des armes cyber comme des armes du champ de bataille sur nos théâtres d'opération pour attaquer des réseaux de combat ennemis comme des centres de propagande. Les armées mènent la guerre informationnelle sur les théâtres extérieurs.
Et donc on reconnaît l'existence de cette guerre numérique, mais qui la mène cette guerre alors ?
Eh bien il y a deux têtes, deux entités bien distinctes. À Rennes, vous avez le cybercommandement, c'est le centre d'attaque numérique de l'armée française. Son boulot c'est d'aller pirater ou de paralyser l'ennemi. Et puis vous avez le centre historique des actions de propagande qui se trouve à Lyon. On l'appelle le CIAE. Le Centre interarmé pour l'action dans l'environnement.
Et il fait quoi le CIAE ?
Eh bien, il envoie sur zone des techniciens pour faire de la télé, de la radio, avec des haut-parleurs, des tracts, des affiches, et il diffuse aussi effectivement des messages Internet. Son objectif, c'est de faire ce qu'on appelle de la contre-propagande, comme l'explique encore Nathalie Guibert.
À Lyon, vous avez ce fameux centre qui a été resollicité très fortement dans les années 2014-2015, quand la France est intervenue contre l'État islamique en Irak et puis en Syrie, pour contrer la propagande de Daesh qui estimait le gouvernement français menaçait les Français eux-mêmes en France, puisqu'elle allait jusqu'à les toucher chez eux pour les recruter et devenir des combattants. Donc l'idée, c'était de dresser un mur et de faire de la contre-propagande de Daesh. Et donc c'est ce centre, entre autres, qui s'en est occupé sous l'impulsion de l'état-major des opérations.
Et ces opérations, à l'origine, Philippe, elles avaient un nom. Hein. On appelait ça les opérations psychologiques.
Oui, et les Américains, eux, appelaient ça les Psy-Ops. Après 2012, on les a appelés les OMI en France, les opérations militaires d'influence. En tout cas, quel qu'en soit le nom, c'est toujours la même philosophie. L'idée, c'est de conditionner les populations auprès desquelles on intervient pour préparer les esprits, en quelque sorte, comme le reconnaît le général Chauvency.
Le CAE, quand il a été créé, l'objectif était une unité de mise en œuvre des actions d'influence ou opérations psychologiques. Voilà.
Les donc, psyops.
Voilà, c'est le travail. J'ai écrit la doctrine aussi sur la question. Les opérations militaires d'influence ont pour objectif de convaincre des populations de ce que nous faisons, d'expliquer avec nos moyens à nous.
Mais pourquoi on a changé de nom?
Le mot psychologique que nous avions. Alors, je vous donne une anecdote. Avant cette doctrine, oser parler d'opérations psychologiques faisait bondir des conseillers, des ministres de l'époque. Ils étaient encore à la guerre d'Algérie. Si je peux me permettre, nous, ça fait très longtemps qu'on l'a quitté. Ça fait même, on n'y a même jamais participé. Et c'est pas notre sujet.
Ouais, donc lui assume cette terminologie d'opérations psychologiques. Bon, maintenant, ces opérations psychologiques, Philippe, elles consistent en quoi précisément?
Eh bien, elles consistent à créer une ambiance favorable. À préparer, par exemple, un village à une opération militaire, comme nous le précise notre consoeur Nathalie Guibert.
C'est des spécialistes qui sont chargés de faire en sorte que les opérations militaires au sens pur et dur, c'est-à-dire les frappes aériennes, la constitution de prisonniers, la lutte contre un adversaire, que ces opérations se passent bien. Donc, ils sont chargés de faire ce qu'on appelle les opérations civilo-militaires dans le jargon. C'est des espèces d'opérations humanitaires. On va distribuer des crayons dans les écoles, on va creuser un puits, etc., qui sont uniquement là pour faire accepter la force dans le pays en question. Donc ça peut être Barkhane au Mali. Et ils vont faire aussi des actions sur ce qu'on appelle en jargon l'environnement, c'est-à-dire eh bien, les populations qui vivent dans les villages que va traverser l'armée française, les éleveurs ou les villageois qui vont avoir sous les yeux le résultat de ces opérations. Donc tous ces gens, on leur parle en leur adressant des messages sur le thème « Ce qu'on fait est bien pour vous ».
Et ces messages, ils ressemblent à quoi?
Eh bien, écoutons encore Matteo Maillard. Lui-même a été embarqué dans un convoi militaire qui conduisait une opération de ce type dans la région de Gao, au centre du Mali. Et il raconte comment ça s'est passé.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir des commerçants, discuter avec eux, montrer la présence de la force Barkhane. Mais ce qu'on voit, c'est des assez grandes affiches, parfois pour Barkhane, qui disent « Barkhane est là pour vous aider », qui donnent parfois un numéro vert à contacter en cas de souci, qui disent « voilà, n'hésitez pas, s'il y a un problème de sécurité, à nous contacter ». Il y a des diffusions aussi aux haut-parleurs, des diffusions radio qui se font lors de l'arrivée de la force pour prévenir les populations en disant « ne vous inquiétez pas, Barkhane arrive ». Barkhane est là, rassurez-vous, voilà, on ne vous veut pas de mal. C'est une manière, je pense, de préparer aussi un peu le terrain et de rassurer les populations.
Ouais, de leur dire de ne pas s'inquiéter d'éventuelles frappes.
Oui, et on fait d'abord de l'humanitaire. Matteo Maillard a vu l'armée offrir des béquilles, par exemple, à un jeune Malien qui avait perdu une jambe. Il faut savoir que beaucoup de civils sont blessés ou tués par des mines artisanales, mais on envoie aussi des messages bien plus menaçants.
Il y a aussi d'autres opérations dont j'ai eu vent, notamment des largages aériens de flyers, qui représentent en général alors soit un drone qui, avec son œil, observe un homme, une silhouette, et qui porte en différentes langues une mention qui dit « Barkhane vous surveille ». Donc c'est à la fois une forme de menace pour les groupes djihadistes de la région, mais peut-être aussi une forme de dire « voilà, on est là, Barkhane est là, Barkhane est présent, on vous surveille ».
Autrement dit, faites attention. Mais tout ça, finalement, Philippe, c'est pas vraiment nouveau.
Non, en effet, les pluies de tracts, c'était fréquent au Vietnam pour répandre de fausses rumeurs et inviter à la délation. On appelait ça des opérations de pacification, se souvient Ronnie Broman, le président d'honneur de Médecins Sans Frontières.
Ça rejoint tout à fait la stratégie que déjà l'armée française avait mise au point en Algérie avec ce que l'on appelait à l'époque la pacification. Les Américains ont rebaptisé cela opération psychologique, c'est revenu d'ailleurs également en France. Il s'agit de se mettre en scène dans une situation avantageuse. On aide une école, on aide une population avec des compléments de nourriture, la distribution de grains ailleurs, de matériel scolaire et des choses de ce type.
Oui, en fait, cette manière d'accompagner la guerre par une action psychologique, pour reprendre ce vocabulaire, elle date en fait de bien avant la guerre d'Algérie.
Et effectivement, elle date de l'Antiquité. On l'avait déjà théorisé, rappelle l'expert Romain Mialkarek.
La stratégie d'influence, pas du tout quelque chose de nouveau ou de récent ou d'inédit. Ça a toujours existé. Tous les grands penseurs de la guerre, depuis l'Antiquité, ont réfléchi à cet aspect-là, en théorisant le fait que ça prenait probablement moins d'énergie de convaincre l'ennemi de ne pas se battre, de renoncer au combat, que d'essayer de le tuer. Et donc le fondement même de l'influence, c'est ça, c'est de se rendre compte que par la diplomatie, par l'information, par l'envoi des bons messages, on peut arriver à avoir des effets moins coûteux que par la guerre en elle-même.
Ouais, donc jouer sur l'image et sur la propagande, c'est pas nouveau, mais les techniques, elles évoluent quand même et Internet a changé beaucoup de choses.
Oui, on vous parlait tout à l'heure de l'erreur grossière qui consistait à utiliser la photo réelle de Mohamed Ali jeune sur une page Facebook. C'est ce qu'on appelle un avatar. Eh bien, cette erreur, bientôt, on ne la fera plus, car on crée maintenant de plus en plus des visages de personnes qui n'existent pas, explique encore le spécialiste de l'influence Romain Mielcarec.
De plus en plus, la nouvelle technique qui s'impose, aussi parce que les outils sont en train de se démocratiser, c'est la fabrication de vraies photos de gens qui n'existent pas. Donc à partir d'algorithmes, des logiciels sont capables de générer des visages inédits et qui sont du coup plus difficiles à détecter. Mais pareil, de la même manière, des logiciels sont en train de se démocratiser qui, maîtrisant ces algorithmes-là, permettent de détecter si une photo est vraie ou fausse.
Et ces vraies fausses photos, on devrait en voir de plus en plus, elles sembleront de plus en plus réelles et on pourra leur faire dire ce qu'on veut.
L'avenir, à plus ou moins court terme, dans quelques années, c'est d'avoir des logiciels qui soient capables de simuler ces personnages, et donc à grande échelle. Et donc au lieu d'avoir un opérateur militaire qui serait capable de contrôler quelques dizaines de faux comptes sur une plateforme sociale, on aurait un logiciel qui serait capable à grande échelle de piloter des centaines, des milliers, des millions de comptes qui seraient tous capables de simuler une activité cohérente et crédible, d'avoir des hobbies, des passions, des goûts, des sujets d'intérêt, parfois sur la durée. Et le jour où un acteur militaire veut mobiliser cette foule numérique, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que tout d'un coup, tous ces gens aient la même préoccupation au même moment. Il y a un jeu vidéo récent qui est sorti au mois de décembre, dans lequel on a un monde ouvert et dans lequel chaque personnage a une activité qui lui est propre et qui est donc capable d'imiter une individualité.
Et donc la technologie ouvre des champs nouveaux. Maintenant, pour ce qui est des contenus, on a encore des progrès à faire.
Oui, par rapport aux Russes ou aux Américains, nous avons une longueur de retard dans ce qu'on appelle les récits, c'est-à-dire dans les histoires qu'on peut raconter pour marquer les esprits. C'est ce qu'a relevé la spécialiste des affaires militaires, Nathalie Guibert.
La France est tout à fait au niveau en matière de cyber, de cyberoffensif, de cyber-espionnage. Ça, c'est, il y a aucun doute sur les aspects techniques des choses. Par contre, sur ce qu'on peut appeler la narration politique, les opérations d'information sur le terrain, sur toute cette sphère...
La bataille des récits.
La bataille des récits, comme disent les Américains, là, elle est encore au balbutiement dans son cadre, dans le cadre qu'elle s'est mis, qui est le cadre démocratique.
Ouais, donc on peut mieux faire dans un cadre contraint qui est celui, ce qu'on comprend donc, d'une éthique qui varierait selon les pays, Philippe. Maintenant, encore faut-il pour s'en servir de ces récits qu'ils aient une efficacité? Ça, c'est une vraie question, ça reste encore à prouver, non?
En tout cas, ce que relèvent certaines ONG, c'est que la propagande auprès des villageois ou des chefs de village maliens est souvent sans effet auprès des populations. Rodney Broman, le président honoraire de MSF, estime que cette supposée conquête des cœurs et des esprits au Sahel est loin d'être gagnée.
On voit que ça ne servit à rien, puisqu'il y a eu deux coups de force militaires depuis l'intervention française au Mali, puis dans la région. Et ce ne sont pas les efforts de propagande, fussent-ils arrimés aux technologies les plus actuelles, qui peuvent changer cette réalité de la corruption, de la misère, du fait que des groupes djihadistes sont aussi des groupes protestataires qui tirent leur légitimité de la corruption et de la malgouvernance des régimes en place, qui distribuent de l'argent, qui donc peuvent aussi recruter et payer des jeunes pour cela. Donc je crois qu'il n'y a absolument aucun effet à attendre de cette propagande.
Donc, si l'on devait résumer, on pourrait dire que oui, les techniques se perfectionnent, mais que ni en Irak, ni en Afghanistan, ni pour l'instant au Mali, la guerre informationnelle, autrement dit la com de l'armée, n'a pour l'instant démontré son efficacité.
Bien, merci Philippe Reltien. Alors, je précise que cette enquête, votre enquête, on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez nous y laisser vos commentaires au passage, tout comme vous pouvez le faire d'ailleurs sur la page Facebook de la cellule, et c'est un vrai compte, hein, de la cellule Investigation de Radio France, ou encore sur Twitter, Investigation RF. Mais surtout, restez avec nous dans quelques instants. À l'origine des ennuis d'Alexeï Navalny, il y a une société française très connue. On en parle avec notre invité. Elle est née à Yaoundé, elle vit à New York, elle s'est surnommée Vagabond et elle interprétait Reason to Believe avec Courtney Barnett. C'est en fait une reprise de la chanson qui avait été composée par Tim Hardin en 1965.
Secret d'info sur France Inter.
Et nous recevons maintenant Violette Lazare, bonjour.
Bonjour.
Alors que l'opposant russe Alexei Navalny vient d'être condamné à de la prison ferme, vous avez publié cette semaine dans l'Obs une enquête qui montre qu'à l'origine de ses ennuis, bien il y a une société française qui est bien connue, qui est spécialisée dans les produits de beauté. C'est Yves Rocher, dont le siège est à Vannes. Alors l'histoire est assez peu connue, elle est assez étonnante. En fait, les ennuis de Navalny viennent de la filiale russe d'Yves Rocher, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. Une filiale qui s'appelle Yves Rocher Vodstock. En fait, on s'aperçoit que si aujourd'hui Navalny est condamné à 2 ans et demi de prison, c'est dans un dossier qui démarre en 2012 sur une dénonciation, une lettre de dénonciation en fait du patron à l'époque de la filiale russe d'Yves Rocher, du coup, qui écrit au comité d'enquête criminelle, qui mène les enquêtes en Russie, pour leur dire qu'ils ont un problème avec une société de transport logistique de leurs colis. Cette société appartient aux frères Navalny.
Une société qui s'appelle GPA.
Hein, GPA, c'est ça. Je pourrais pas vous la dire totalement parce que c'est un nom russe. C'est pas grave, ça correspond à des initiales, mais c'est ça.
C'est les Navalny, c'est les frères Navalny qui sont derrière.
Voilà, exactement. Oleg, donc, et Alexei. Je sais pas comment on dit. Alexis, on va dire Alexis. Alors, que dit Yves Rocher? C'est pas très clair. Dans cette lettre, ils disent il y a des soupçons d'escroquerie de cette société. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de faits étayés. Juste 4 lignes comme ça qui sont très bizarres. Et pourtant, cette enquête, elle va servir au pouvoir russe, enfin en tout cas au pouvoir policier, à ouvrir une enquête qui va déboucher sur un procès qui aura lieu en 2014.
Mais pourquoi tout ça démarre? Qu'est-ce qui se passe dans la tête du patron de la filiale russe d'Yves Rocher? Pourquoi à un moment donné, tout d'un coup, il écrit aux autorités russes?
Alors, c'est évidemment là-dessus que se posent toutes les questions aujourd'hui. Enfin, c'est autour de ça qu'il y a toutes les interrogations, pardon. C'est qu'on ne comprend pas. Il a signé un contrat avec cette société qui achemine ses colis. Tout se passe très bien. On apprendra par la suite qu'il a eu la visite de gens du comité d'enquête criminelle à 2 reprises qui viennent l'alerter, selon ce qu'il dira à la maison mère, qui viennent l'alerter que cette société, GPA, peut se révéler coupable d'escroquerie.
C'est-à-dire que c'est les Russes qui lui auraient suggéré de porter plainte contre GPA ?
En tout cas, ils lui rendent visite à deux reprises avant cette lettre de dénonciation. Est-ce qu'il y a eu des pressions ? On sait très bien qu'en Russie, les entreprises étrangères peuvent pas faire du business comme ça sans l'approbation du pouvoir, sans l'approbation du FSB, sans l'approbation des autorités. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a eu un espèce de chantage ? Maintenant, vous dénoncez cette société qui est tenue par Navalny, qui est un opposant qui, déjà à l'époque, en 2012, est connu. On peut pas l'ignorer, on peut pas ignorer son nom, on peut pas ignorer sa position anti-Poutine. C'est un blogueur qui est très connu, qui dénonce la corruption. Donc quand Yves Rocher fait cette dénonciation, elle sait très bien contre l'entreprise de qui elle fait cette dénonciation. Mais ce qui est très troublant dans cette affaire, c'est qu'au moment où cette lettre est envoyée, il n'y a pas eu d'audit interne à la filière russe. Donc ils ne savent pas, est-ce qu'ils se font escroquer ou pas. Non, ils font la lettre avant même de savoir. Un an après, il y a eu un audit interne, ils ont le résultat, et là ils s'aperçoivent qu'ils ne se sont pas du tout fait escroquer, voire c'est l'inverse, les prix pratiqués par la société des frères Navalny étaient inférieurs aux prix pratiqués sur le marché. Donc en plus, ils ont gagné de l'argent. Ouais. Là, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient l'audit en disant « Ah ben non, finalement, on n'a pas été escroqués », mais ils ne retirent pas leur plainte.
Et la machine est enclenchée, et c'est ce qui va aboutir à ce qu'on a vu cette semaine, c'est-à-dire la condamnation et de la prison ferme, qui n'était que la révocation d'un sursis dans cette affaire-là, en fait.
Voilà, parce que en 2014 se tient un procès à Moscou. Les deux frères Navalny sont condamnés, donc Oleg à de la prison ferme, le frère d'Alexis, lui-même à 3 ans et demi avec sursis. Cette peine va être confirmée en 2015. Il va en effectuer une partie. Il y aura l'épisode de l'empoisonnement qui date de l'été dernier.
Qui fait qu'il n'a pas pu se rendre à son contrôle judiciaire. C'est pour cette raison qu'il a donc été condamné à de la prison ferme.
Voilà.
Mais du coup, Violette Lazare, si je résume, on a la justice russe qui considère que les frères Navalny ont escroqué Yves Rocher. Pour à hauteur, je crois, de 370 000 euros.
Tout à fait.
Et on a Yves Rocher en France qui dit, ben non, on n'a rien qui nous permet de dire qu'on a été escroqué.
Voilà, exactement. Donc nous, on a juste envoyé une lettre en disant, bon ben, peut-être on a été escroqué. C'est pas de notre faute, c'est le pouvoir russe qui est venu nous voir. Ensuite, on a fait un audit qui a montré qu'on n'avait pas été escroqué, mais de toute façon, l'affaire était lancée malgré nous, un petit peu, c'est ce qu'ils disent. Donc nous ne sommes pas coupables de dénonciation calomnieuse. Nous avons juste fait ce que nous devions faire et il se déresponsabilise complètement de cette condamnation.
Sauf que ça s'arrête pas là parce que les frères Navalny et Alexei notamment se sont retournés contre Yves Rocher, ont porté plainte pour dénonciation calomnieuse et on ne le sait pas mais Alexei Navalny est venu rencontrer la justice française à Vannes très récemment, enfin c'était en 2019.
Tout à fait, il a été entendu par un juge d'instruction français. Il est entendu, il explique cette affaire en disant Yves Rocher a subi des pressions, personne ne peut faire d'affaires en Russie sans avoir l'aval du pouvoir. Donc moi, je porte plainte pour dénonciation calomnieuse. Donc l'enquête est menée en France depuis 2019. Le patron de la filière russe d'Yves Rocher de l'époque est entendu en France. Il ne dit vraiment pas grand-chose, il n'est pas très bavard. Il dit non, je n'ai pas eu de pression du pouvoir russe, point.
Donc lui justifie la lettre qu'il a envoyée aux autorités.
Tout à fait. En disant, on m'avait alerté sur une possible escroquerie, c'était de mon devoir de faire cette lettre.
J'ai fait mon boulot. Oui. Mais ce que vous constatez par ailleurs, c'est que ce personnage dont vous parlez, l'ancien patron de la filiale russe d'Yves Rocher, il a changé de société, il travaille maintenant dans une autre société, une société russe.
Alors en 2013, un an à peine après cette lettre de dénonciation, il part d'Yves Rocher pour une société russe qui s'appelle Île de Beauté. C'est un nom français parce que les cosmétiques en Russie se vendent
plus corse que russe.
se vendent sous un nom français, voire corse donc. Mais en fait, c'est une société russe, elle a été rachetée depuis, qui est réputée proche du pouvoir, très proche du pouvoir. Après, aucune perquisition n'a été menée au siège d'Yves Rocher, ce qui est un peu, en tout cas, dommage d'un point de vue de la justice, parce qu'on peut se dire qu'il y a des mails à l'époque qui ont été échangés avec la maison mère, entre lui et la maison mère, qui auraient peut-être permis d'y voir plus clair. Le juge d'instruction a décidé que c'était trop tard, que s'il y avait des preuves, elles avaient eu le temps d'être effacées, et que donc il n'y avait pas besoin de mener ces perquisitions. Du coup, l'enquête aujourd'hui est close. Et on n'en sait pas plus.
Alors tout ça est quand même, parce que quand on voit les proportions que prend l'affaire aujourd'hui, assez dommageable pour l'image d'Yves Rocher. Comment vous percevez, vous, les responsables de la société aujourd'hui face à l'ampleur que prend l'affaire ?
Je suis assez surprise par la faiblesse de leur réponse, c'est-à-dire qu'ils restent sur une argumentation qui n'est, en tout cas au regard de ce qui se passe aujourd'hui, pas satisfaisante. Je trouve ça assez incompréhensible qu'un groupe de cette ampleur dise « on a simplement répondu à ce que nous demandaient les autorités russes » en feignant de ne pas voir les conséquences que ça a aujourd'hui. Et je suis assez surprise qu'ils ne cherchent pas à apporter une réponse plus complète sur ce qui a pu se passer à l'époque.
Plus circonstanciée.
Voilà, c'est ça.
Voire éventuellement faire part de regrets.
Exactement. Ouais. Pourquoi aujourd'hui ne pas dire on s'est fait instrumentaliser par le pouvoir russe ? Alors il faut savoir que le groupe Yves Rocher est toujours très présent sur le marché russe. Les Russes sont très friands des produits Yves Rocher.
250 points de vente, c'est ça ?
250 points de vente, oui. En tout cas à l'époque où l'affaire a explosé. Et aujourd'hui, il y a encore une part non négligeable du chiffre d'affaires réalisé par Yves Rocher qui se fait sur le marché russe.
Bien, merci en tout cas de nous avoir éclairé sur cet arrière-plan, on va dire, de l'affaire Navalny. Violette Lazare, je rappelle que votre enquête sur l'affaire qu'on pourrait dire Yves Rocher et Navalny d'ailleurs, est toujours consultable sur le site de l'Obs à condition d'être abonné. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Stéphane Combe. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique, il y avait Florent Layani et Julien Dumont. Je souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.